France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, France Culture, 8h30 le dimanche, et naturellement Jean-Luc Gadreau avec vous pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Historien du protestantisme, Pierre-Yves Kirchléger est mon invité ce matin. Il est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Il est spécialiste reconnu d'histoire religieuse et a consacré de nombreux ouvrages à l'étude du protestantisme français et de ses réseaux internationaux. On lui doit notamment l'Église réformée de France, 1938-2013, une présence au monde, classique Garnier 2021, La religion de Guizot, Labor et Fides 2019, ou encore le volume collectif Les évangéliques, racines, identité, engagement chez Première Partie en 2021. Avec La matrice étrangère du protestantisme, 19e siècle, publié en 2024 chez Labor et Fides, il éclaire d'une manière inédite le rôle décisif des apports internationaux dans la refondation et la diversification du protestantisme français. Bonjour Pierre-Yves Kirchléger.
Bonjour.
Bienvenue dans Soleil.
Merci.
Le protestantisme français n'a jamais été une île, dites-vous. Il s'est toujours construit dans le dialogue, l'échange et parfois le frottement avec l'étranger. C'est ce que vous révélez donc dans votre dernier livre, au 19e siècle déjà. Les églises françaises se sont renouvelées grâce à des influences venues d'ailleurs. N'est-ce pas une histoire qui résonne finalement très fortement avec les défis d'aujourd'hui ?
Tout à fait. On a souvent l'impression que ces apports étrangers peuvent être plus liés au XXe siècle. On parle souvent de l'influence américaine. Mmh. Or, en fait, quand on regarde l'histoire longue du protestantisme, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage, c'est-à-dire sortir un peu du regard ultra-contemporain, où l'on voit ces influences, ces migrations, ces mouvements importants, et aussi sortir un peu du cadre franco-français dans lequel on a souvent limité les études historiques. Et bien, quand on regarde sur ce temps long, le protestantisme a déjà au XIXe siècle, c'est-à-dire au moment où il renaît après la Révolution française, accueilli, subi ces influences étrangères qui l'ont nourri.
Alors, ce 19e siècle, c'est un siècle, justement, de circulation très intense, circulation des idées, des personnes, des objets. Concrètement, quel type d'apports étrangers ont marqué le protestantisme français ?
Mais comme vous dites, il y a la circulation. Alors quand on dit circulation, c'est d'abord la circulation des hommes qui fuient leur pays ou qui viennent s'installer en France pour des raisons politiques, le plus souvent économiques. Mmh. Et ces hommes, ils n'arrivent pas évidemment sans leur culture d'origine, sans rien. Ils arrivent avec leur savoir-faire. Mmh. Donc ça va être des artisans, des travailleurs qui vont apporter peut-être la spécificité de leur pays. Ils arrivent aussi avec leur culture, tout cet arrière-fond culturel qui peut être évidemment protestant, mais d'un protestantisme un peu différent, un protestantisme luthérien, un protestantisme anglican, un protestantisme baptiste. Et ils arrivent aussi donc avec leurs rites, avec leurs idées, et c'est tout cela en fait qui se mélange. C'est ça la grande circulation des hommes et des idées.
Alors dans Solae, le rendez-vous protestant, il y a le rendez-vous avec la parole qui nous permet un temps d'écoute du texte biblique. Dans le contexte de notre entretien, Pierre-Yves, allons dans le livre du Lévitique, chapitre 19, versets 33 et 34, qui nous sont lus par Emmanuela RM.
Quand un immigré viendra s'installer dans ton pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était un membre de votre peuple. Tu l'aimeras comme toi-même. Rappelez-vous que vous avez aussi été immigré en Égypte.
Et précisément, vous parlez dans votre livre d'une France devenue pays d'immigration au cœur d'un continent d'émigration. Quelle place y prennent donc ces protestants immigrés ?
Alors c'est l'une des originalités de la France au XIXe siècle, c'est que par rapport à ses pays voisins précisément, elle perd un peu de son dynamisme démographique. Mmh. Et comme elle est un peu en avance par rapport aux autres pays du continent au point de vue économique, elle va donc attirer. Et parmi cette immigration, il y a bien sûr l'immigration d'origine catholique, qui elle peut venir de Belgique, d'Italie, ensuite d'Espagne, mais il y a aussi une immigration d'origine protestante, qui vient d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse.
Tous ces pays qui avaient été des pays de refuge, justement, notamment d'huguenots français, qui étaient partis, c'est peut-être une forme de retour, en quelque sorte.
Pour certains, c'est un retour, mais les retours sont assez limités de ces descendants de réfugiés huguenots, parce qu'en général, ils se sont bien assimilés dans leur pays. Mmh. Mais par contre, c'est vrai qu'on voit des circulations, et c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est toutes ces circulations qui réapparaissent au XIXe siècle et en direction de la France, qui est un pays d'immigration et qui donc accueille énormément d'immigrés. Et donc, dans cette grande part des étrangers qui s'installent en France, il y a une part protestante non négligeable. Et donc, ce protestantisme d'origine étrangère, soit se constitue de manière un peu autonome, avec des églises de langue étrangère, on va voir des églises américaines, anglaises, allemandes, où c'est aussi un protestantisme qui va se fusionner, en quelque sorte, avec le protestantisme français.
Alors c'est très intéressant, parce que finalement, c'est exactement des choses qu'on voit encore aujourd'hui, avec des églises où les gens se retrouvent entre eux, et puis aussi ces chrétiens venant d'ailleurs qui viennent peupler des communautés déjà existantes. On a exactement les mêmes...
Tout à fait, c'est l'intérêt de le mettre en perspective sur le temps long, c'est qu'on va retrouver ces mêmes phénomènes qui peuvent être évidemment des phénomènes d'hybridation culturelle, d'intégration, des phénomènes aussi de friction, voire de rejet, des phénomènes aussi qui peuvent être pour certains temporaires, puisque l'immigration, elle n'est pas définitive.
Pas forcément.
Si elle est liée à la conjoncture politique ou économique, en fonction de ces évolutions, on va avoir des migrants qui vont rentrer dans leur pays. Mais on a, en tout cas, que ce soit au XIXe siècle ou aujourd'hui, évidemment, des thématiques, des problématiques, des dynamiques qui sont les mêmes.
Vous évoquez aussi des objets et des pratiques venues d'ailleurs, avec l'exemple du sapin de Noël, par exemple. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot rapidement.
Oui, parce que le sapin de Noël n'est pas une tradition dans le protestantisme français. Et le premier sapin de Noël, au sens religieux du terme, va être dressé à Paris, au Palais des Tuileries, pour la belle fille du roi Louis-Philippe en 1837, puisque le fils du roi Louis-Philippe a épousé une duchesse luthérienne, Hélène de Mecklembourg-Schwerin. Et donc, pour bien accueillir leur belle-fille, le roi et la reine de France organisent ce sapin de Noël en forme de surprise, qui est l'arrivée d'une tradition luthérienne en France. Et elle va se développer après, tout au long du XIXe siècle.
Il y a aussi des cantiques, une littérature de piété. Est-ce que cela veut dire que l'identité protestante en France s'est largement construite, finalement, par hybridation ?
Tout à fait, parce que le protestantisme, et c'est ça qu'il faut rappeler, protestantisme français, sort de la période de la persécution, du désert, donc avec la Révolution française, mais il en sort extrêmement affaibli. C'est un protestantisme exsangue un peu dans tous les domaines. Et il doit se reconstruire, et pour se reconstruire, il va bénéficier de cet apport étranger. Alors, avec des choses toutes simples, mais en France, on n'a plus imprimé de Bible. Mmh. Et donc, ce sont les protestants étrangers qui vont imprimer des Bibles en français à destination des protestants français. De la même manière, les cantiques... On chantait les psaumes dans la tradition française. Et bien, avec ces mouvements, ces circulations au XIXe siècle, les protestants français vont découvrir ces cantiques, ces traditions de chant, chant méthodiste, chant luthérien, que l'on va traduire pour eux.
Alors, vous parlez de méthodisme, par exemple. Il y a des périodes que l'on qualifie de « réveil », entre guillemets, qui ont profondément marqué le protestantisme français. En quoi, justement, cette origine étrangère est-elle aussi décisive ?
Alors, les réveils, ce sont des mouvements, on pourrait dire, un peu de revivification des églises par rapport à une situation que l'on considère un peu comme églises endormies. Voilà. Et ben, ces réveils, ils vont avoir lieu, par exemple, à Genève, des réveils en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Et ces réveils, ils suscitent des vagues de missionnaires, d'évangélisation. Et donc, c'est comme ça qu'ils se développent à partir de leur point d'ancrage initial. Et ben, ils essaiment. Et donc, la France devient le grand réceptacle de toutes ces vagues de réveils successives au cours du XIXe siècle. Et le protestantisme français, bien sûr, va s'en nourrir.
Est-ce que l'on peut dire que l'évangélisation, la mission, les sociétés bibliques qui vont se créer sont aussi des importations, donc ?
Les protestants français sont à la recherche de modèles. Évidemment, ils doivent se reconstruire, puisqu'ils ont perdu, à cause de la clandestinité du désert, ils ont perdu ce que les protestants des pays voisins ont pu faire, c'est-à-dire cette continuité. Et donc, ils vont essayer, ils vont redécouvrir, ils vont imiter les modèles philanthropiques, les modèles d'organisation religieuse. Et donc, on va, quand ils trouvent une idée intéressante, eh ben, ils vont l'appliquer. Et donc, on va créer en France, sur le modèle de ce qui se passe en Angleterre, en Allemagne ou en Suisse, des sociétés bibliques, des sociétés philanthropiques, des sociétés d'action missionnaires.
Vous avez utilisé le terme friction tout à l'heure. Cette ouverture internationale a-t-elle été perçue, alors j'imagine que oui, comme une chance, mais aussi parfois comme une menace par certains contemporains ?
Ah, tout à fait. Et on pourrait dire aussi bien à l'intérieur du protestantisme français qu'à l'extérieur. Par exemple, dans l'Est de la France, évidemment, un certain nombre de catholiques s'inquiètent de ces vagues de migrants protestants qui viennent souvent pour le travail. Et donc, on a des exemples comme ça où on refuse l'implantation de nouvelles usines parce que ça va être aussi l'implantation d'un protestantisme qui est extérieur.
Ça va loin, ces tensions, et en interne ?
Et en interne aussi. Alors, ce sont plutôt des conflits sur les pratiques, sur les rites. Ça peut, en interne, en fait, conduire à la création d'églises autonomes.
Ah oui.
Alors que, au départ, ces missionnaires étrangers viennent plutôt pour nourrir l'église réformée telle qu'elle existe. Cela va donner très rapidement, et de plus en plus au cours du XIXe siècle, en fait, la création de dénominations autonome.
Ah oui.
Donc on a des créations d'églises baptistes, d'églises méthodistes, d'églises adventistes, l'église salutiste, etc.
C'est vrai que le protestantisme permet cela d'une certaine façon, et c'est l'une de ses particularités, c'est d'avoir énormément de dénominations avec chacune, au niveau, je dirais, de la théologie, de la pratique, des variantes, un socle commun, mais des variantes dans la façon de le vivre.
Et alors ça, c'est vraiment l'originalité du 19e siècle, c'est que le protestantisme français va connaître cette pluralisation, alors que le protestantisme français était jusque-là réformé ou luthérien. Désormais, on connaît cette extraordinaire diversité, cet extraordinaire dynamisme missionnaire, qui n'est pas seulement étranger, mais que les protestants français vont s'accaparer, puisque ces nouvelles dénominations, bien sûr, elles sont constituées d'abord et avant tout de protestants français ou de français qui se convertissent.
Alors, il y a l'aspect religieux, spirituel, mais ces influences étrangères ont-elles aussi transformé la culture protestante française plus largement ? Je pense là au rapport qu'elle peut entretenir avec l'éducation, la société, la culture, la politique.
On peut vraiment dire qu'en fait, le protestantisme français se met à l'école des protestantismes étrangers, voisins. Et donc, c'est plus largement, c'est vrai, ces idées dans tous les domaines qui vont être récupérées. Par exemple, dans le domaine de l'école, on va beaucoup s'intéresser au modèle scolaire, par exemple à l'éducation mutuelle, telle qu'elle est pratiquée en Angleterre. On va adapter les écoles du dimanche, telles qu'elles ont été inventées en Angleterre. Et donc, c'est vraiment cette pluralisation, cette diversification qui va nourrir le protestantisme français à travers cette circulation des idées.
Sur la question politique ?
Sur la question politique, il va y avoir moins d'influence.
Oui.
L'histoire de France est déjà suffisamment agitée, on pourrait dire.
Votre ouvrage s'arrête donc au 19e siècle, mais vous montrez que cette dynamique continue, et dans votre travail, au-delà de ce livre, c'est aussi quelque chose sur lequel vous êtes très, très actif. Quel parallèle voyez-vous donc avec la réalité d'aujourd'hui, le protestantisme français contemporain ? Qu'est-ce que vous tirez de tout ça ?
Le protestantisme français, on pourrait dire de manière plus générale, la France, est resté au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui un pays très largement ouvert sur le monde et un pays d'immigration. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'étudier ces circulations qui vont nourrir le protestantisme français. Alors, au XIXe siècle, c'est bien sûr lié aux circulations qui viennent essentiellement d'Europe. Au XXe siècle, ces circulations viennent de plus loin, et en particulier du monde américain, du monde africain. Et ces églises, les églises ou les missionnaires étrangers vont nourrir et diversifier à nouveau le protestantisme jusqu'à aujourd'hui.
Aujourd'hui, on parle aussi, on utilise le terme d'église mosaïque. Peut-on dire qu'elle prolonge cette histoire longue des apports étrangers ? Est-ce que vous auriez des choses justement à nous dire sur ces fameuses églises mosaïques ?
Aujourd'hui, on a un peu parfois du mal à qualifier exactement ces églises, ouais. Parce qu'on a vu l'implantation au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, de ce qu'on a parfois appelé des églises ethniques, des églises d'expression.
Issues de l'immigration.
Issues de l'immigration, des églises d'expression africaine. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que le terme d'église mosaïque en fait, permet de parler de ces églises dans les différentes dynamiques qu'elles connaissent. Bien sûr, ce sont des églises qui, en partie, sont issues de l'immigration, mais qui sont aussi des églises qui sont ouvertes sur la société française, avec des mariages, on pourrait dire, mixtes, de l'hybridation, et des églises qui aussi ont des liens, ont conservé des liens avec les régions d'origine. Et donc, on a des circulations qui ne sont pas à sens unique, mais qui sont multiples.
J'aimerais que nous parlions quelques instants de ce qui va se dérouler dans quelques jours, les 19 et 20 novembre prochains. La Fédération protestante de France organise un grand colloque à Paris, au Palais de la Femme, autour d'un thème justement qui résonne avec ce dernier ouvrage que vous avez écrit, « Église mosaïque entre nation, mondialisation et interculturalité ». Ce sont deux jours de débats, de panels, de conférences pour mettre en lumière la diversité des églises issus de l'immigration et leur place dans le paysage protestant français. Vous-même, donc, Pierre-Yves Kirchléger, vous serez l'un des intervenants de ce colloque. Alors, quelques noms, on entendra également Sébastien Fatt, que je recevais récemment dans Solae, Seth Rassolondra Ibé, qui est président de l'église protestante malgache en France, Franck Lemaître, directeur d'Istina, Bruno Cross, qui est doctorante en histoire et culture européenne, Constance Gott, doctorante en sociologie et histoire, Anne Ruholt, docteur en sciences de l'éducation, professeur à l'Institut biblique de Nogent, Fabrice Desplan, sociologue, Jean-Claude Girondin, docteur en sociologie, Emmanuel Zanga, pasteur adventiste, Fatia Kawes, chargée de recherche au CNRS, Bernard Coyot, professeur à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles. Je m'arrête là, mais il y en a encore d'autres, la liste est vraiment longue. Il y a des conférences, des tables rondes, et le samedi soir également, le dîner des protestants à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est la 5e édition, je crois, autour des 120 ans de la laïcité de la Fédération protestante de France. L'unité et la diversité au cœur de ce dîner, donc. Alors voilà toutes ces infos. Je précise d'ailleurs que les auditeurs intéressés peuvent s'inscrire à ces événements en se rendant sur le site protestant.org. D'ailleurs, que vous soyez protestant ou non, si vous êtes intéressé par toutes ces choses, vous pouvez bien sûr participer, venir. Et je me retourne vers vous, Pierre-Yves. Ma question étant double là, en quoi ce colloque s'inscrit-il à la fois dans la continuité de vos recherches sur la matrice étrangère du protestantisme français au XIXe, et en même temps, qu'est-ce que ce regard historique peut apporter très, très précisément pour comprendre les enjeux actuels de ces églises dites mosaïques ?
Mais ce que l'on voit, et c'est ce qu'on va essayer de mettre au jour à travers ce colloque, c'est qu'en fait, le protestantisme français s'est beaucoup diversifié dans les 20 dernières années. Il y avait eu un grand colloque organisé en 2010, qui avait fait le point sur les changements, mais depuis 2010, en fait, on n'a pas eu d'études larges. Et donc là, il s'agit de...
Et les choses ont dû quand même beaucoup changer.
Les choses ont beaucoup changé, et il s'agit de montrer les dynamiques à l'œuvre, et en particulier liées à ces thématiques des migrants. Et de l'hybridation culturelle ou de l'interculturalité.
Et votre rapport, vous, personnellement, sera sur cet aspect du 19e ou...
L'idée, c'est de confronter les regards des différents spécialistes, et moi, en tant qu'historien, c'est de mettre en perspective ces questions qui, bien sûr, sont ultra-contemporaines, dans un temps plus long, puisque même si les contextes changent, on retrouve évidemment des questionnements qui sont similaires.
Oui, bien sûr, on l'a compris là dans cet échange. Si vous deviez résumer en une phrase ce que l'étranger a apporté et apporte encore au protestantisme français, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire ?
Aussi bien au
19... ou deux phrases.
Oui, aussi bien au 19e siècle qu'aujourd'hui, je dirais peut-être c'est un souffle nouveau. Et l'intérêt de se pencher sur cette question, c'est de montrer comment le protestantisme français a toujours su intégrer ce souffle nouveau. Voilà, et s'en nourrir. Et donc, on a vraiment des échanges. Et au XIXe siècle, ces souffles étrangers ont vraiment participé à la revivification, à la pluralisation, mais aussi vraiment à la reconstruction du protestantisme français, au sens aussi matériel du terme.
Ne pas en avoir peur, donc.
En particulier.
Et vous, personnellement, donc, ce sera ma dernière question. Dans vos recherches, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou touché dans cette histoire, au-delà même de l'écriture de ce livre, dans tout votre travail?
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut associer, on pourrait dire, la grande histoire avec la petite histoire, puisque ces histoires de mouvement et de circulation, c'est aussi l'histoire des hommes, des femmes, des enfants qui quittent leur pays et qui vont dans un pays qu'ils ne connaissent pas, et comment ils arrivent à s'intégrer avec plus ou moins de difficultés, et comment ils arrivent à entrer en contact, à se nourrir des apports qu'ils trouvent sur place, et comment, en échange, ils arrivent aussi à apporter leur culture à un protestantisme français déjà présent.
Il y a une expression que vous avez utilisée plusieurs fois et que j'ai retenue, c'est le temps long. En tant qu'historien, c'est quelque chose d'important.
Bien sûr, parce que ça permet aussi de, on pourrait dire, un peu de dépolitiser, de dédiaboliser les débats contemporains, en montrant que notre histoire, elle se construit aussi sur des héritages, et ces héritages, eh ben, ils sont le fruit de ces dynamiques anciennes, dont parfois on a oublié qu'elles ont existé, et je pense que c'est l'intérêt de mon ouvrage, c'est de montrer comment au XIXe siècle, ce protestantisme français, qui sort vraiment exsangue de la période du désert, eh ben, a réussi à se reconstruire, et en même temps, il a transformé son visage grâce à ses apports étrangers.
Un grand merci, Pierre-Yves Kerschléger. J'ai envie de vous dire bon colloque, puisque c'est ce qui vient dans l'immédiat. Et puis,
merci.
Au plaisir de vous avoir à nouveau dans Solae. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels on pourra discuter ensemble. Merci. Alors, d'autres livres à vous recommander pour finir cette émission et pour commencer, un tout petit livre très facile à lire, très très agréable, sorti cet été par Patrick Cabanel sur la croix huguenote. Et je vous propose d'écouter Patrick nous en dire juste quelques mots rapidement.
C'est un bijou qui est par excellence le bijou identitaire des protestants, mais qui en fait est très énigmatique. Ça fait longtemps que les gens ont essayé de percer le secret de ses origines. Voilà. Et là, j'écris donc ce petit livre. On sait maintenant un certain nombre de choses de manière sûre. On sait où il a été inventé, c'est à Nîmes. Qui l'a inventé, c'est un orfèvre protestant. C'est 3 ans après la révocation de l'édit de Nantes, au moment du prophétisme, le prophétisme qui était en train de bouleverser la Drôme et l'Ardèche d'aujourd'hui, et c'est une allusion au Saint-Esprit, hein, la colombe. On sait, grâce à un prêtre d'ailleurs érudit de Nîmes au XVIIIe siècle, donc on a la date d'invention de ce bijou, donc là c'est une certitude, on sait que longtemps il ne s'est pas appelé la croix huguenote, il s'appelait tout simplement un Saint-Esprit, et que l'appellation de croix huguenote est récente, c'est les années 1900. Et puis en revanche, là ce qui est beaucoup plus énigmatique, où il y a des hypothèses, j'en défends une dans le livre, c'est l'origine de ce bijou. Mon hypothèse, c'est qu'il est, je crois qu'il est très probablement issu de 2 bijoux féminins très répandus dans la région nîmoise au sens large, qui étaient en vérité à l'origine des bijoux catholiques. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est-à-dire, d'une part, la très belle et très classique croix de Malte, la Maltaise de Provence. La Provence, c'est la porte de Nîmes. Hein. Et puis, le Saint-Esprit, c'est-à-dire la colombe seule, qui, elle, est un bijou catholique tout à fait traditionnel du Massif central, avec des fabrications au Puy-en-Velay, à Riom, à Brioude, vraiment des endroits d'ailleurs de France où il n'y a quasiment jamais eu de protestants. Mais le Massif central a toujours débouché par les grandes voies muletières de commerce et des êtres humains sur Nîmes. Et je pense que la croix huguenote, c'est le syncrétisme de 2 bijoux voisins très connus, féminins, la croix maltaise des Provençales, le Saint-Esprit des Auvergnates.
La croix huguenote, petite histoire d'un mot et d'un bijou d'identité, édité par le Musée du Désert et disponible d'ailleurs sur leur boutique en ligne. On continue avec une autre nouveauté signée encore par Patrick Cabanel, il est très prolifique en termes d'écriture, qui sort lui ce mois-ci, Un village sous la révocation de l'édit de Nantes, chez Passé Composé dans la collection Un village. Patrick Cabanel nous raconte Saint-Germain de Calberte en 1685, après la la révocation de l'édit de Nantes, la France est officiellement catholique et pourtant certains résistent, fuient et une société clandestine émerge. Mais la répression est violente, la marquise de Porte, ses officiers, l'abbé du Chayla et des voisins hostiles mènent une campagne impitoyable contre les protestants des Cévennes. Aux éditions du Cerf, comprendre la Bible avec Origène de Jean-Michel Pauffette, un ouvrage qui révèle la pertinence contemporaine de l'exégèse d'Origène pour renouveler l'approche des Écritures, montrant comment Origène articule études et prières. Il offre une alternative féconde aux lectures fondamentalistes comme aux approches purement historico-critiques. Aux éditions Memoring, une jeune maison d'édition bordelaise qui s'est spécialisée dans la publication d'ouvrages d'histoire, Eugénie et John Bost, un couple hors normes au service de ceux que tous repoussent, un livre écrit par Ariane Dahan et Olivier Pigeot, un livre qui ne se contente pas de retracer la biographie de ces deux figures inspirantes du protestantisme, dont on a déjà largement parlé dans Solae, de véritables modèles d'accueil et de soins, mais c'est aussi l'occasion de rendre un hommage à un couple visionnaire et à l'héritage d'un engagement toujours d'actualité. On retourne chez Labor et Fides dans la collection Anniversaire. Qu'est-ce que ça change ? Cette fois-ci, un livre écrit par Valentine Zuber autour des droits humains. Les droits humains, qu'est-ce que ça change ? Tissé d'histoire et de philosophie, les droits de l'homme sont à la fois un guide vers plus de justice au niveau planétaire et puis un point de butée de l'universalisme. Valentine Zuber nous aide à penser ce que cette philosophie politique à visée universelle peut encore nous apporter aujourd'hui. Et quel défi lui reste à relever pour qu'elle soit réellement appliquée. Et puis je terminerai avec un beau livre, un très beau livre même. Il s'agit d'Apocalypse, révélation d'un autre monde, aux éditions Biblio, qui propose en fait une lecture renouvelée de ce texte fascinant grâce à une cinquantaine d'illustrations pleines pages qui sont signées par Valentin Frouté, un ouvrage qui ne laissera certainement pas indifférent et qui se situe à la croisée de l'art et de la spiritualité. Et nous nous séparons maintenant avec cette chanson qui traduit aussi les influences africaines dans le protestantisme francophone contemporain, notamment dans les chants de louanges. C'est le pasteur et chanteur Marcel Bungu qui est venu du Congo, au début avec le groupe Palata, puis en solo et avec de nombreuses chorales, comme ici avec ce titre « Je veux me réjouir ».
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Tahar Bouklifa, la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Je vous propose aussi ce matin à la télévision à 10h sur France 2, Notre Culte avec Gérard Roharaud, cofondateur de Mission Vie et Famille. Mais à suivre ici sur France Culture les informations qui continueront avec Talmudic, présenté naturellement par Marc-Alain Waknin. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun. Allez.